Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Pas d'inscription. Gilbert ne comprend pas. Le chauffeur reste debout, droit, devant cette tombe. Gilbert lui demande « Qui est-ce ?» Le chauffeur ne dit rien. Gilbert insiste « Qui a enterré là ?» Le chauffeur ne dit rien. Gilbert lui demande Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Le chauffeur ne répond toujours pas. Il reste quelques secondes devant la tombe, puis il s'éloigne. Gilbert le suit et il quitte le cimetière. On le fait rentrer dans la voiture, entre lui-même, et il met la voiture en route. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'avez-vous fait venir jusque-là? Où est votre maîtresse? Vous voulez rien me dire? Vous lui direz que je suis furieux de me faire aller dans un cimetière en pleine nuit pour me montrer une tombe qui est peut-être vide. Et il retourne à Paris. Gilbert ne dit plus rien. chauffeur le ramène gare Saint-Lazare. Histoire de voiture. Pour faire sortir de voiture Gilbert. Gilbert lui dit « Merci pour le voyage !» Et il entre dans sa voiture. Et la met en route. La voiture de la femme en noir a disparu. Père va chez lui. Il regarde l'heure, il est 5h du matin, il est furieux. Chez lui, il se couche de suite. Il se réveille, il est 10h, soupire. Se lève et va de suite téléphoner à Julien. Il prend l'appareil qui est sur sa table de nuit. Allô? Oui, c'est moi. Je viens de me réveiller. J'arrive. Je prends mon petit déjeuner chez toi. Je téléphone, c'est pour... Que tu ne te fasses pas du souci. À tout à l'heure. Lève.
Prépare ta douche.
Il va s'habiller.
Il sonne chez Julien.
Bonjour Maria.
Bonjour.
Julien est où?
Il est au salon. Il vous attend.
Bon, j'y vais. Merci.
Entre. Salut.
Julien a déjà préparé le petit déjeuner par Maria. Assieds-toi. Gilbert s'assoit à côté de Julien.
Sers-toi.
Il sert son petit déjeuner. Tout en prenant son petit déjeuner, il raconte sa nuit décevante à Julien. Et lui dit, je comprends pas pourquoi me mener là-bas. Qu'est-ce qu'il voulait me montrer? Et pourquoi ne pas l'avoir dit au lieu de me faire chercher? Une tombe sans nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être fallait-il voir, en plus de la tombe, autre chose. T'as vu quelque chose à côté? Non, rien. Julien lui dit, c'était peut-être un code, un message codé. Il faut retourner au cimetière et demander, faire une enquête sur la tombe. Gilbert lui dit, tu as raison. Julien lui dit, alors, on y va cet après-midi, au jour, on y verra plus. Réfléchis. Gilbert réfléchit, il lui dit, il y a un hic, c'est que je ne sais pas où est le cimetière. Il faisait nuit, on a tellement roulé longtemps, je suis rentré à 5h du matin. Et puis, on n'a fait que l'aller-retour. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a pris, au bout d'un long moment, une petite route qui menait à un village de campagne. Puis, nous avons pris un sentier qui nous a mené au cimetière. Mais je ne sais pas où. Julien lui demande. Il y avait tout de même quelque chose de particulier, ton cimetière. Gilbert lui dit, non, je ne vois pas. Pour moi, c'est un cimetière de campagne, tout simple, en rose campagne. Julien lui demande, et le village? Un petit village, comme ça, rien d'extraordinaire. L'église. J'ai pas fait attention, nous roulions assez vite dans le noir. Julien soupire et lui dit, on peut pas y retourner. Ils ont peut-être fait exprès pour que tu ne retournes pas et fasse une enquête, un mystère. Une illusion. Ma foi, n'y pense plus, mais réfléchis. On ne sait jamais. Peut-être est-ce que le cimetière te dira quelque chose. Gilbert lui dit, peut-être qu'on l'a amené là-bas, c'est pour me distraire sur un mystère qui n'en est pas. Une tombe d'inconnu qui n'a rien à voir avec avec nous, pour vous faire réfléchir, m'empêcher de chercher ou peut-être pour me faire peur. Les jours passent. Dans les magasins. Les jeunes en bande entrent dans les magasins et renflent, saccagent tout sur leur passage. Ils sont très nombreux.
Il n'a pas de nichon.
Et là. Ils vont très vite, ce qui empêche les gardes de les arrêter.
Le pognon, donne-moi ton putain de pognon.
Ils sont tellement nombreux et courent dans tous les sens. On rentre en faisant tomber les produits à terre, ce qui crée une panique terrible dans le magasin. Les gens s'écartent en les voyant de peur de recevoir des coups. Les sonneries retentissent. Retentissent de toutes parts. On appelle la police. Mais les jeunes de 10-12 ans ont vite fait de tout prendre et de s'en aller. Puis de s'éparpiller dans les rues en courant et de se retrouver dans un lieu après. Ce qu'ils veulent, ce sont surtout des appareils audiovisuels. La plupart du temps, petit format, des aliments sucrés, gâteaux secs, bonbons, chocolateries et des boissons. Bien entendu, des CD, des cassettes vidéo. Leurs larcins ne sont que des larcins de gamins. Ils ne veulent pas des choses utiles pour la vie, comme de vrais aliments ou des sous-vêtements, etc. Ils ne prennent que des choses dont rêvent les enfants et les adolescents. Les magasins, mais surtout les supermarchés, ont beau faire, ils n'arrivent pas à arrêter toute cette rafle. Les jeunes sont trop nombreux et viennent d'un coup. On ferme les portes pour éviter qui s'en aille et risque encore de plus casser. Alors on ne peut rien faire. Les magasins prêtent des assurances contre ce genre de choses, ce qui fait que les magasins augmentent leurs produits pour récupérer les vols et les assurances. Les magasins ne perdent rien, c'est le consommateur qui payera les larcins. Il y a de plus en plus de bandes armées qui font des tueries dans les quartiers des villes. Il y en a de plusieurs sortes, de bandes différentes, qui font des tueries, soi-disant, pour se défendre et tuer la racaille qui traîne dans les rues. La racaille, c'est les SDF, les bandes de jeunes, etc. Ils font cela en se disant et disant qui sont dans leurs droits et que s'ils ne le faisaient pas, ce sont eux qui seraient tués. Il y a d'autres bandes qui, elles, font des tueries parce qu'elles sont contre la société, qu'ils extériorisent leur haine. Ils tuent pour faire le mal et prouver qu'ils existent. Une autre catégorie tue pour jouer. Ce sont des bandes de jeunes qui tuent comme on tue dans les films pour faire viril et rigoler un peu. Pour eux, un homme, ce n'est rien. On ne fait que tuer. On tue dans toutes ces catégories. L'on viole aussi, l'on vole, l'on met le feu. Ce qui fait la nuit, toutes ces bandes s'entretuent et tuent les autres. Les bandes sont de plus en plus nombreuses. Parce que la pauvreté, les morts ont supprimé la famille. Et que ça n'a plus d'importance. On n'appartient plus à un peuple, à un pays. Alors les jeunes sont seuls, livrés à eux-mêmes, n'ont pas de repères, cherchent à appartenir à un groupe, à une identité, parce qu'il n'y a plus de famille, plus de pays, plus de sens, de quoi que ce soit. Ils se regroupent entre eux pour se former une identité, et ces groupes pour se faire une place et démontrer qu'ils font partie d'une unité. Ils les démontrent aux autres par la violence. En se défendant, se défonçant, pour se montrer qu'ils sont encore là et qu'il faut compter sur eux. Mais que fait l'État ? L'armée, la police, vis-à-vis de ces violences. Eh bien, ils ne font rien. Ils laissent faire. La plupart du temps, ils viennent après les tueries. Pour les pompiers, c'est la même chose. Le temps qu'ils viennent,
Le ravage a été fait. Parce que ça arrange les autorités, toutes ces tueries. Ça fait de la population en moins. Ça élimine entre eux sans que l'on ne fasse rien. Moins de STF, de malades, de vieux. Ça fait des économies pour l'État, la sécurité sociale et aussi pour les retraites, etc., etc. Les jours passent. Julien va à une soirée de Charlotte. Il va à ces soirées, c'est surtout pour draguer les filles. Gilbert lui dit, bon, je te laisse. Je vais voir mon père. Et il le quitte. Julien regarde autour de lui. Ce soir, il ne semble pas avoir de jeunes filles intéressantes. Elles ont le visage ingrat, ou trop maigre, ou trop dans bon point, rient comme des folles,
Monsieur Carmine,
comme des filles qui rient lorsqu'elles sont avec des garçons. Non, rien d'intéressant.
Et son fiancé, Monsieur Clark Kellogg, venu tout droit de l'État du Montana. Au nom du club des gourmets, souhaitons la bienvenue.
Il se dit, je reste un moment, et puis je m'en vais. Tout à coup, il voit arriver une jeune fille, grande, mince,
Carmine,
avec des cheveux tombants aux épaules qui ondulent, le visage très doux. Elle porte une robe toute simple, blanche, sans bijoux. Elle semble chercher quelqu'un. Elle tombe sur Julien et lui dit, tu es venu avec une amie? Mais elle a disparu. Vous connaissez quelqu'un, vous? Il lui dit, oui, je suis l'ami de la famille. Elle lui dit, ah, moi je connais personne. Je trouve ces soirées insommantes. Pourquoi fait-on encore ce genre de soirée? Julien lui dit, la maîtresse de maison est obligée à cause de la situation du mari. Elle lui demande, mais que fait son mari? Il lui dit, il construit des maisons, immeubles. C'est le PDG du groupe Franblanc. Elle fait, je connais pas. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morvetti.